Vous écoutez On lit pour vous.
Sachet de nicotine, une mauvaise idée à la mode. Un texte de Camille Lopez, paru le 14 juin 2026 dans Franco Presse. En ce moment, il y a un produit de plus en plus populaire chez les jeunes qui inquiète les experts de la santé, les sachets de nicotine. Tu as peut-être vu des influenceurs parler de ces sachets, aussi petits qu'une gomme, mais remplis d'une substance qui rend accro, la nicotine. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces petits sachets peuvent être dangereux. Voici ce que tu dois savoir. On les appelle les IN, c'est la marque la plus populaire, ou des pouch. Ce sont des sachets qui contiennent de la nicotine. C'est une substance qui rend accro. Les gens qui en consomment ont beaucoup de mal à arrêter. On la retrouve dans les cigarettes et les vapoteuses. À l'origine, ces sachets ont été créés pour aider les adultes à arrêter de fumer. Ils libèrent de la nicotine pour habituer les fumeurs à en consommer de moins en moins. Ils doivent être placés sur la gencive, mais pas avalés. Ils restent collés sous la lèvre et la nicotine est absorbée tranquillement dans la bouche. Une fois vides, après moins d'une heure, il faut les jeter à la poubelle. Des règles contournées. Au Canada, il est interdit de vendre des sachets de nicotine aux moins de 18 ans. Un seul fabricant, qui fait des sachets qui goûtent la menthe, peut être vendu en pharmacie, Zonic. Mais grâce à Internet et des vendeurs illégaux, les ados mettent facilement la main sur d'autres marques de sachets qui goûtent la gomme balloon, la pêche et d'autres saveurs de bonbons. Et ce, même si c'est contre la loi. Rendre les ados accros sur les réseaux sociaux. Dimanche, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a sonné l'alarme. Elle s'inquiète de voir autant d'influenceurs faire la promotion de ces sachets de nicotine sur la plateforme. En ligne, on peut voir plein de personnes se filmer en train de placer ces petits sachets sur leurs gencives. Elles disent que ça les aide à se concentrer, à rester éveillées et que ça les buzz. On est loin de l'objectif original, aider à arrêter de fumer. Plusieurs de ces influenceurs sont même payés par les fabricants de sachets de nicotine pour vanter leurs produits auprès de leur public, qui inclut des millions de jeunes. Et selon l'OMS, leur but est clair, vendre ces sachets aux ados. Look coloré et goût sucré. L'organisme dénonce aussi les emballages qui ressemblent à ceux des bonbons. Ils sont conçus pour séduire les jeunes. L'objectif principal est de créer une dépendance à ces produits nocifs, a décrit l'OMS dans un communiqué. Des dangers importants. Ces sachets contiennent une concentration de nicotine très élevée qui peut être toxique pour les jeunes. Un enfant qui en avale accidentellement pourrait malheureusement mourir. On sait aussi que ces sachets nuisent à la santé de la bouche, des dents, des gencives et de la gorge. La nicotine affecte même le cerveau des jeunes, selon la docteure et chercheuse en tabac à l'université Yale, Megan Morin. Quand ton cerveau se développe, la nicotine peut entraîner des problèmes, comme rendre impulsif et développer des troubles de la concentration, a-t-elle expliqué à la clinique Yale Medicine. L'OMS demande donc au gouvernement de renforcer l'application des lois et d'interdire la publicité et la promotion des sachets de nicotine. C'était « Sachets de nicotine, une mauvaise idée à la mode », un texte de Camille Lopez, paru le 14 juin 2026 dans Franco Presse.
Faut-il boire 2 litres d'eau par jour? Un texte d'Annie Ferland, diététiste nutritionniste, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Il fait chaud. Il faut boire au moins 2 litres d'eau. On l'entend à la radio. On le lit dans les magazines. On le reçoit en conseil santé bien intentionné, souvent sans l'avoir demandé. À force d'être répétée, cette recommandation a dépassé le simple conseil pratique. Elle est devenue une norme rassurante, un chiffre rond qui donne l'impression de prendre soin de soi. Pourtant, notre corps ne fonctionne pas avec des quotas d'eau précis. Et l'histoire à l'origine de ce chiffre est plus surprenante qu'on pourrait le croire. C'est en 1945 qu'apparaissent, pour la première fois aux États-Unis, des recommandations officielles sur l'apport quotidien en eau. Un comité scientifique mandaté par le gouvernement américain, le Food and Nutrition Board, publie un rapport dans lequel il estime qu'une personne adulte sédentaire a besoin d'environ 2,5 litres de liquide par jour. Le document ajoutait une précision qui a disparu des recommandations. Ces liquides devraient inclure non seulement ce que l'on boit, mais aussi l'eau naturellement présente dans ce que l'on mange. Les fruits, les légumes et les soupes contribuent à eux seuls à près de 20 à 30% de nos apports hydriques quotidiens, soit l'équivalent de 2 à 3 verres d'eau par jour. Ce glissement n'a rien d'exceptionnel. En nutrition, les recommandations ont une fâcheuse tendance à se simplifier, parfois pour le mieux, d'autres fois au détriment du gros bon sens. Dans le cas de l'eau, ce qui était un ordre de grandeur pour guider des politiques nutritionnelles est devenu une cible individuelle solidement ancrée dans nos habitudes. Les 2,5 litres du rapport original ont été reformulés en 8 verres de 8 onces, environ 250 millilitres chacun, et ont fini par être arrondis à 2 litres, parce que le message était plus simple ainsi. Ce raccourci n'est pas problématique en soi, mais il a eu des conséquences inattendues. Il est venu alimenter toute une industrie d'applications mobiles pour compter ses verres, un marketing d'eau infusée ou vitaminée et le phénomène à la mode des bouteilles réutilisables belles, graduées et hors de prix. En 2002, un professeur de physiologie de l'Université de Dartmouth, Heinz Valtin, a cherché les preuves scientifiques appuyant la règle des 8 verres. Sa conclusion? Aucune donnée solide ne justifie cette recommandation. Il a aussi relevé que de se forcer à boire au-delà de sa soif n'apporte aucun bénéfice, et que si cette règle a survécu aussi longtemps, ce n'est pas parce que la science la soutenait, mais parce qu'elle avait été répétée suffisamment souvent pour sembler vraie. Entre-temps, les recommandations ont évolué, même si l'injonction des 2 litres circule encore allègrement. Notre soif reste le meilleur indicateur de nos besoins, à une exception près. Avec l'âge, cette sensation a tendance à diminuer, ce qui rend les personnes aînées plus vulnérables à la déshydratation. Pour le reste, les besoins varient selon le sexe, l'âge, le niveau d'activité et la chaleur. Par exemple, une personne active par temps chaud n'a pas les mêmes besoins qu'une personne âgée sédentaire en hiver, et certainement pas besoin de dépenser des dizaines de dollars pour une gourde qu'on perd, qu'on oublie au fond d'un tiroir, pour finalement en racheter une autre, avec la conviction que celle-ci, plus belle et plus motivante, va enfin nous aider à boire davantage. C'était « Faut-il boire 2 litres d'eau par jour ?» Un texte d'Annie Ferland, diététiste nutritionniste, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
Magnétothèque. La bibliothèque aux 10 000 livres sonores. Un texte d'archives de Valérie R. Carbonneau, paru le 31 janvier 2009 dans Le Devoir et diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque. À noter que certaines informations qu'il contient peuvent ne plus être à jour. En cette période anticipée de vaches maigres, les organisations caritatives sentent bien la menace et craignent qu'on les place au rang des oubliettes. Néanmoins, bien qu'elles se sentent fragilisées, la demande n'en demeure pas moins importante. Certes, grâce au caractère unique de son concept, la magnétothèque se verra peut-être épargnée d'une telle mise en garde. Œuvrant auprès d'une clientèle atteinte de déficience visuelle, si on s'en tient à sa structure actuelle, la magnétothèque est le seul centre de la sorte au Québec. Ainsi, tout comme son équivalent canadien, l'Institut national canadien des aveugles, INCA, elle a pour mission de permettre l'accessibilité à l'imprimé sous forme sonore à tous ses membres. Nous sommes le plus grand producteur de livres sonores adaptés dans toute la francophonie. mentionne Marjorie Théodore, directrice générale de la magnétothèque. Depuis 1976, l'établissement enregistre plus de 700 livres par an, tout en veillant au respect des diverses normes d'acquisition établies préalablement par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Ce nombre, s'ajoutant année après année à la collection de l'établissement, la magnétothèque met à la disposition des utilisateurs près de 10 000 livres sonores adaptés à même la Bibliothèque nationale. Quelque 80 % de l'information qu'on reçoit vient de la vue, par exemple par les panneaux d'affichage, la télévision ou bien les journaux et les revues, alors que seulement 20 % nous provient de l'audition. L'accès au savoir et à la culture, pour ces gens qui ne peuvent tirer profit autrement de l'imprimé, est une cause qui me tient vraiment à cœur. Personnellement, si je perdais l'usage de la vue, ce serait grave, admet la directrice générale. À la question de savoir si elle avait un témoignage à partager, Marjorie Théodore évoque Marie-Jeanne Bérubé, membre exceptionnelle et toujours active de la magnétothèque. Cette dernière a perdu la vue à l'âge de 25 ans, ce qui ne l'a pas empêchée de compléter un baccalauréat grâce à la magnétothèque. Grande adepte de lecture dans ses loisirs, elle a également siégé au conseil d'administration à titre de présidente pendant quelques années. Les fondements et l'évolution. Lorsqu'il était à la maîtrise à l'Université de Montréal, André Hamel a perdu la vue. Fervent lecteur, il ne pouvait donc plus se livrer à sa passion pour la littérature. Il a alors entendu parler de Recording for the Blind, un organisme états-unien où il s'est rendu pour en étudier la structure. Il est ensuite revenu au Québec, pleinement inspiré, pour fonder la magnétothèque à l'image de cet organisme. Ainsi, au cours des premières années de son existence, soit de 1976 à 1985, la magnétothèque s'est consacrée notamment aux étudiants handicapés de la vue, leur offrant ses services pour l'enregistrement de documents pédagogiques. À l'époque, l'organisme était financé en grande partie par le ministère de l'Éducation du Québec, précise Marjorie Théodore. Dès 1984, la magnétothèque est reconnue par l'État québécois comme un organisme de service offert aux personnes handicapées de la vue. En 1986, l'organisme connaît un changement de parcours. Cette année-là, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, anciennement le ministère des Affaires culturelles, a demandé à la magnétothèque d'enregistrer des livres de loisirs. Depuis, la magnétothèque doit suivre la politique de développement des bibliothèques publiques. Par la suite, en collaboration avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, en 2001, la magnétothèque a mis au point le service québécois du livre adapté, SQLA, où elle joue un rôle de diffuseur. En 2005, l'organisme a cédé ses activités de diffusion à BANQ et s'oriente dorénavant comme un centre de production de livres sonores. Avant 2005, l'usager qui voulait un livre appelait directement à la magnétothèque, alors que, depuis 2005, il doit être abonné à BANQ, laquelle héberge la collection de la magnétothèque, explique-t-elle. Depuis, les services ont pris beaucoup d'ampleur. La magnétothèque permet dorénavant l'enregistrement de livres et de documents sonores, et on y vend également des livres sonores préenregistrés en collaboration avec les éditions Stanké. Elle a même amorcé un projet de radio personnalisée. La radio de la Magnétothèque diffuse une programmation quotidienne variée au moyen du câble, d'Internet ou de la télévision numérique. La radio fait la lecture intégrale d'articles de quotidiens francophones. Elle diffuse une programmation de 6 heures en boucle, ajoute Marjorie Théodore. Elle permet à plus de 450 000 auditeurs d'écouter des articles de journaux et de revues francophones, ainsi que des éditoriaux, et ce, à toute heure du jour. En somme, la Magnétothèque veille à la mise en place d'un service à la clientèle hautement qualifié pour rejoindre plus de 8 000 usagers abonnés. Bien qu'elle lance elle-même ses campagnes de souscription, elle vit aujourd'hui en grande partie grâce à l'appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Elle regroupe plus de 400 bénévoles, lesquels sont invités à prêter main-forte à plusieurs niveaux, par exemple au cours des différentes activités de financement, des marathons de lecture, en plus de siéger au conseil d'administration, alors que 2 sièges sont réservés aux membres non-voyants. Le site Internet a également été conçu de telle sorte que les visiteurs, aux prises avec une déficience visuelle, jouissent d'un outil virtuel accessible. La Magnétothèque fait partie de l'Union francophone des aveugles et est très présente au sein de la francophonie, ajoute Marjorie Théodore. L'organisme prête également son expérience et son expertise et participe activement à des projets de développement durable au niveau international, notamment la mise sur pied d'une bibliothèque sonore en Algérie. C'était Magnétothèque, la bibliothèque aux 10 000 livres sonores. Un texte d'archives de Valérie R. Carbonneau, paru le 31 janvier 2009 dans Le Devoir, est présenté dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de la Magnétothèque.
La valeur du bien-être se calcule, elle aussi. Une chronique de Nathalie Collard, parue le 22 juin 2026 dans La Presse. On le dit depuis des années. Le PIB n'est pas un indicateur sûr pour mesurer le bonheur d'une population. En Islande, on l'a compris depuis longtemps. Notre chroniqueuse en parle avec l'ex-première ministre Katrín Jakobsdóttir, de passage à Montréal pour parler de l'importance de l'économie du bien-être. Nous ne pouvons pas assurer le bonheur, dit-elle, mais nous pouvons en créer les conditions. Les changements climatiques ne sont pas seulement mauvais pour la santé de la planète. Ils affectent aussi notre propre santé, et il faut en tenir compte lorsqu'on évalue le bien-être d'une population. C'est le message, en gros, que souhaitait livrer Katrín Jakobsdóttir, première ministre de l'Islande de 2017 à 2024, invitée à prendre la parole dans le cadre d'un événement annuel organisé à la mi-juin 2026 par l'organisme Vivre en ville. Les canicules qui se multiplient, les incendies de forêt de plus en plus nombreux, les virus qui voyagent à la vitesse de l'éclair. L'environnement et la santé sont imbriqués l'un dans l'autre, rappelle celle qui préside désormais la Commission pan-européenne sur le climat et la santé, PECCH. Des indices qui parlent. les propos de Catherine Jacobs de Thier ne sont pas que des paroles en l'air. Lorsqu'elle était au pouvoir de 2017 à 2024, la politicienne a fait adopter un cadre économique basé sur 39 indicateurs qui ont ensuite dicté les décisions de son gouvernement. Les gouvernements ne peuvent pas assurer le bonheur de tout le monde, affirme-t-elle, mais ils peuvent en créer les conditions. La partie était pourtant loin d'être gagnée. À la tête d'un parti écologiste de gauche, Catherine Jacobs-Dottir a dû manœuvrer au sein d'un gouvernement de coalition avec des partis de droite et de centre-droit, comme dans la série Borgen, qui se déroule dans un autre pays nordique, le Danemark. Comment y est-elle arrivée? J'ai impliqué tous les partis. Nous avons créé une commission transpartisane pour décider des indicateurs ensemble, explique-t-elle. On a regardé la Nouvelle-Zélande et l'Écosse, qui ont été les précurseurs en la matière, et on a aussi fait un sondage indépendant. L'idée était de voir ce que nous voulions mesurer, nous, en Islande, ce qui répondait à nos défis. Un exercice salutaire. Au Québec, depuis 2022, un regroupement d'organismes, le G15+, publie un indice du bonheur basé sur une cinquantaine d'indicateurs. En Islande, ces indicateurs sont aujourd'hui au nombre de 40 et mesurent aussi bien la santé mentale que l'espérance de vie en bonne santé. L'Islande est en outre le seul pays qui mesure la violence domestique et l'équilibre travail-vie personnelle. Ce qui est un problème assez important en Islande, parce que nous travaillons beaucoup, précise Catherine Jacobs-Dottir. Un exercice qui s'est avéré salutaire, poursuit l'ex-première ministre. Je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment utile, parce que même si nous sommes, les Islandais, souvent considérés comme étant assez heureux, quand on regarde le rapport mondial sur le bonheur, nous avons encore beaucoup de problèmes de santé mentale. L'étape suivante, selon elle, serait d'évaluer tous les budgets et toute la législation selon ces indicateurs. Rappelons qu'en Islande, c'est déjà le cas pour l'indice d'égalité entre les genres, qui guide toutes les décisions du gouvernement. Ce pays est le plus avancé en matière d'égalité homme-femme, comme j'ai pu le constater en 2015, à l'occasion d'un reportage là-bas. Chaque loi qui est adoptée par le Parlement islandais doit passer par une évaluation. Est-ce que cela affectera les hommes et les femmes différemment? Souligne l'ex-première ministre d'Islande. Quels ont été ses arguments pour convaincre les partis de droite de participer à son projet lorsqu'elle était au pouvoir? Je ne suis pas sûr que ce soit une question de gauche ou de droite, me répond-elle. La plupart des dirigeants autour de moi étaient des femmes. Peut-être que c'est une coïncidence, ajoute-t-elle, un sourire en coin. Avant de poursuivre, je pense que l'aile droite et le centre avec lesquels je travaillais ont vu les arguments favorables. À ceux qui estiment que ce genre d'approche est radicale, elle dit avoir souvent entendu cette critique, celle qui se décrit comme une optimiste répond « Nous pouvons faire des choses positives pour la santé et le climat en même temps. On peut créer des opportunités, des espaces verts, du transport actif, etc. Ce ne sont pas de mauvaises choses, c'est plutôt bon pour vous. » Elle reconnaît toutefois que le climat actuel n'est pas propice au discours pro-environnement. Il est très difficile de dire aux gens qui sont confrontés au prix du logement et à l'accessibilité en général. Ajoutez cela à vos fardeaux. Je pense que c'est peut-être l'une des choses qui ont rendu la question climatique un peu compliquée. C'est qu'on nous demande, en tant qu'individus, de faire quelque chose. Or, nous avons besoin d'un soutien actif de nos dirigeants et de nos décideurs politiques pour y arriver. Des reculs en Islande aussi. Le pays a beau être une île, il n'échappe pas à la morosité et aux crises sociales ambiantes. L'Islande n'est pas à l'abri de la montée du masculinisme, par exemple. J'ai 3 fils, âgés de 14 à 20 ans. Ils sont donc le groupe cible de tout ce dont on parle en ce moment, observe Catherine Jacobs-Dottir, qui rappelle la très forte tradition de politique féministe dans son pays. Je vois beaucoup de recul, entre autres, dans le discours public sur les congés parentaux, poursuit-elle. On entend maintenant dire que ce n'est pas le rôle du législateur de toucher à ça ou d'inciter les hommes à en prendre plus, mais si on ne s'en mêle pas, les choses ne bougeront pas. Même chose pour l'équité salariale, qui n'est toujours pas pleine et entière malgré la loi. Avant de la laisser partir, je ne peux m'empêcher de demander à Catherine Jacobs-Dottir ce qu'elle dirait aux Québécoises qui songent à se lancer en politique, puisque des élections provinciales se dessinent à l'horizon. L'approche islandaise pourrait-elle les inspirer? En Islande, la plupart des partis ont leur propre quota, m'explique-t-elle. En ce moment, 5 des 6 partis au Parlement sont dirigés par des femmes. Mais les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. Quand la première femme a été élue à la présidence de l'Islande dans les années 1980, il n'y avait que 3 femmes sur 60 élues. Comment expliquer ce progrès fulgurant? Cela a changé quand nous avons eu un parti composé uniquement de femmes qui s'est présenté, poursuit-elle. Elles étaient considérées comme tout à fait terribles et radicales, et elles étaient appelées des féministes laides. Rire. Mais les partis traditionnels ont dû changer. Donc, la leçon que j'ai tirée de ce moment-là est que nous devons, parfois, faire des choses qui ne sont pas très populaires pour faire avancer les choses, parce que rien ne se passe si vous décidez simplement d'avoir un dialogue d'attente polie. Et elle ajoute « Peut-être avez-vous besoin d'un parti composé uniquement de femmes ici, juste pour bousculer un peu les choses. » Qui est Catherine Jacobs-Dottir? Première ministre d'Islande de 2017 à 2024. Présidente de la Commission pan-européenne sur le climat et la santé, PECCH. Co-autrice de 2 romans policiers avec l'auteur Ragnar Jonasson. C'était « La valeur du bien-être se calcule elle aussi », une chronique de Nathalie Collard parue le 22 juin 2026 dans La Presse.